Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, la disparition d'Agnès Leroux. À l'automne 1977, cette jeune femme de 29 ans, héritière d'un célèbre casino niçois, prend sa voiture et quitte Nice. Depuis, on ne l'a plus jamais revue. Aucun signe de vie, aucune trace de son corps n'a été retrouvée. S'ouvre alors l'une des plus grandes énigmes judiciaires de ces dernières décennies. Une enquête au long cours sur presque 40 ans, dont le dernier acte a eu lieu en avril 2014. Cette affaire nous plonge au cœur de ce qu'on appelle à l'époque la guerre des casinos qui rythme l'actualité de la Côte d'Azur à la fin des années 70 où se mêlent gros sous, mafia et corruption. Au croisement de la disparition d'Agnès Leroux et de ce contexte particulier, un homme attire la lumière. C'est Jean-Maurice Agnolet, avocat à la réputation sulfureuse et amant d'Agnès Leroux. Un homme que la justice poursuit pendant 30 ans, sans cadavre ni preuve formelle, mais avec une intime conviction, bâtie sur un faisceau de soupçons. Voilà le cœur de cette affaire, pour laquelle il faudrait inventer des mots et notions comme présumé assassiné pour elle ou présumé coupable pour lui. La disparition d'Agnès Leroux, parce qu'elle mêle héritage, gros sous, mafia, trahison et amour fou, est une saga qui interroge le fonctionnement, les ressorts et parfois les limites de notre appareil judiciaire. En seconde partie d'émission, nous recevrons Pascal Robert Diard, chroniqueur judiciaire au journal Le Monde et auteur du livre La Déposition, publié aux éditions L'Iconoclaste cette année. Avec elle, nous reviendrons sur le dernier rebondissement de cette histoire, il y a 2 ans. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Emmanuel Fournier, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Henri Bérec.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Nice, 30 juin 1977. Sur la célèbre promenade des Anglais, au numéro 9, se dresse l'imposante façade du Palais de la Méditerranée. Inauguré en 1929, le bâtiment au style Art déco a longtemps porté le surnom de plus beau casino du monde. De Josephine Baker à Edith Piaf, en passant par Charles Trenet ou Jacques Brel, de nombreuses vedettes ont fait sa renommée. Un cadre d'apparence idyllique, mais qui, en cet été 77, ne l'est pas du tout. Ce 30 juin, à l'intérieur du palais de la Méditerranée, se tient l'assemblée générale du casino. Une partie à haut risque. À la tête du conseil, la présidente, Renée Leroux. Ancien mannequin, cette femme de 54 ans est réputée pour sa détermination et son caractère bien trempé. Elle a acquis le casino après le décès soudain en 1967 de son mari, Henri Leroux. Pour gérer l'héritage et diriger le palais, elle fonde une société dans laquelle les 4 enfants Leroux détiennent chacun des parts du casino. Depuis 10 ans, Renée a mis toute son énergie dans cette entreprise, mais elle est aujourd'hui confrontée à de nombreuses difficultés, financières principalement. Le Palais de la Méditerranée subit la concurrence d'autres établissements, notamment celle du récent casino Rulle, situé à quelques mètres, un établissement détenu par un certain Jean-Dominique Frattoni. Sur la Côte d'Azur, le nom de ce Corse de 55 ans est bien connu, c'est le nouveau roi des casinos. Il est soutenu par l'inamovible maire de Nice, Jacques Médecin, qui rêve de faire de sa ville le Las Vegas de la Côte d'Azur. Dans sa volonté d'expansion, Frattoni a une cible prioritaire, le palais de la Méditerranée, justement. Pour y parvenir, il s'est déjà rapproché des 2 hommes présents au conseil d'administration du palais qui détiennent le reste des parts du casino. Mais voilà, il manque à Frattoni le soutien de l'un des membres de la famille Leroux pour pouvoir faire basculer la majorité. Et c'est là, ce 30 juin 1977, que tout se joue. Depuis quelques années, Agnès Leroux, la 3e fille de Renée, est en froid avec sa mère. La raison, toute simple, elle réclame son héritage. Le casino, ça l'intéresse pas. Et elle entend utiliser cet argent pour mener d'autres activités. Alors qu'elle avait toujours refusé, sa mère, Renée Leroux, finit par céder quelques semaines auparavant, rachetant les actions de sa fille. Des titres qui équivalent à 10 voix lors de l'Assemblée Générale du casino. Et elles sont essentielles puisqu'elles peuvent faire basculer la majorité. Ce 30 juin 1977, dès l'ouverture de la réunion, l'atmosphère est particulièrement confuse. Renée Leroux refuse qu'Agnès siège. Elle lui a vendu ses actions, elle ne peut donc plus participer à l'Assemblée Générale. En face, Agnès maintient sa position. La vente doit justement être actée ce jour, elle doit pouvoir siéger. Face à l'attitude de sa fille et des autres administrateurs, René Leroux comprend vite ce qui se trame. En réalité, Agnès va voter contre elle, avec ses adversaires. Blocage. La séance est suspendue. Elle reprend une demi-heure plus tard. René Leroux revient sur sa position. Elle accepte qu'Agnès siège. En d'autres termes, elle capitule. Le vote est sans appel. Les 10 voix d'Agnès pour le camp rival font la différence. Agnès a trahi sa mère. Comment a-t-on pu en arriver là? Assis à la table, un homme observe la scène. Il est peu intervenu au cours de la séance. Pourtant, il est le lien entre les différents protagonistes de cette partie de poker menteur. Cet homme, c'est Jean-Maurice Agnelet. Leroux, Agnelet, Fratoni, des noms qui, un an après ce coup de théâtre, font la une de l'actualité.
Depuis un an, personne n'a de nouvelles d'Agnès Leroux, l'ancien PDG du Palais de la Méditerranée à Nice. Depuis un an, c'est-à-dire depuis que le casino a changé de main. Or, cette vente est litigieuse. L'acheteur du casino, Jean-Dominique Fratoni, a été inculpé d'infraction à la législation sur les sociétés et d'achat de vote. Alors, qu'est devenu Agnès Leroux? Mystère, un mystère qui pourrait pourtant être bientôt levé. Le juge d'instruction chargé de l'affaire a, semble-t-il, de nouveaux éléments. Hier et aujourd'hui, il a survolé les lacs de montagne, nombreux au-dessus de Nice. Et surtout, il a entendu longuement Maître Agnelet, ex-avocat d'Agnès Leroux, inculpé lui aussi dans l'affaire et qui apparaît maintenant comme le témoin numéro 1.
À l'automne 1978, voilà bientôt un an qu'on est sans nouvelles d'Agnès. D'emblée, l'affaire semble avoir une double dimension. Un volet criminel avec cette disparition, mais aussi un volet financier avec le soupçon d'achat de vote. Ce n'est qu'en février 78 que René Leroux signale la disparition de sa fille à la police. Elle est sans nouvelles d'elle depuis 3 mois. Bien sûr, il y a leur relation tendue, surtout depuis la trahison du casino. Il y a le caractère d'Agnès aussi, belle jeune femme de bientôt 30 ans, libre et indépendante, capable de partir plusieurs mois sans prévenir. Mais là, ça fait 5 mois tout de même qu'on est sans nouvelles. Pas d'appel, pas de lettres, pas de mouvement sur ses comptes bancaires. Pour sa mère, ses amis, ses frères et ses sœurs, c'est sûr, il se passe quelque chose de grave. Lorsque les enquêteurs entrent dans l'appartement d'Agnès, ils découvrent un lieu en ordre. Avec les journaux, on détermine une période pour la disparition. Autour de la Toussaint 77, entre le 26 octobre et le 2 novembre. Rien d'anormal, comme convenu, elle avait dit à ses amis qu'elle partait quelques jours. Oui. Sauf qu'un élément, et pas des moindres, interpelle les policiers. Sur le bureau d'Agnès, ils trouvent un mot écrit de sa main. « Désolé, mon chemin est fini, je m'arrête là. » Tout est bien. Agnès. Je veux que ce soit Maurice qui s'occupe de tout. Quelques mots lapidaires et cette évocation de Maurice pour Jean-Maurice Agnelet, son amant depuis plus d'un an. Il faut peu de temps aux enquêteurs pour remonter dans le passé d'Agnès Leroux et découvrir qu'au début du mois d'octobre 77, c'est-à-dire quelques semaines seulement avant sa disparition, elle a fait coup sur coup 2 tentatives de suicide. Il leur faut peu de temps également pour se rendre compte que l'attitude de Jean-Maurice Agnelet au cours de ses tentatives est quelque peu troublante. Dans les 2 cas, prévenu par des amis d'Agnès, c'est lui qui appelle les secours. Dans les 2 cas, il se trompe d'adresse et ne dit pas qu'il possède un double des clés de l'appartement. Avec ces 2 tentatives et le mot « laissé » retrouvé chez elle, la thèse du suicide est inévitablement envisagée par les enquêteurs. Une thèse à laquelle ne veut pas croire René Leroux, comme elle l'explique devant les caméras d'Antenne 2.
Il a fallu qu'il y ait beaucoup de choses qui interviennent pour qu'elle en arrive là. Et d'ailleurs, ma fille n'était pas non plus suicidaire. C'était une fille extrêmement gaie et qui était très, très jolie et qui était très spirituelle et qui était très, très artiste. C'était pas du tout une jeune femme qui avait des idées de suicide. Il a fallu qu'il y ait beaucoup de choses, beaucoup de pression morale, beaucoup de choses. Monsieur Agnelet avait voulu, espérait avoir un rôle au Palais de la Méditerranée de directeur général. Je lui avais dit que c'était impossible. Il m'avait proposé alors un contrat en tant que conseil et avocat de la société, un contrat extrêmement cher d'ailleurs, que j'avais refusé également.
Mais de quelle influence parle René Leroux? Quel rôle aurait pu jouer Jean-Maurice Agnelet? Pour le comprendre, il faut s'arrêter sur le second volet de l'enquête, l'affaire financière. Les enquêteurs approfondissent leurs recherches et se plongent dans ce qu'on appelle à l'époque la guerre des casinos, la course à l'achat d'établissements et les opérations immobilières à Nice et sur l'ensemble de la Côte d'Azur, avec, en arrière-fond, des soupçons de blanchiment d'argent de la mafia italienne. Le palais de la Méditerranée était donc au cœur de cette bataille, convoitée par Jean-Dominique Frattoni, le nouveau roi des casinos azuréens. En 1975, déjà, René Leroux soupçonne Frattoni d'avoir tenté un coup pour récupérer le palais. Cette année-là, le casino perd une somme de plusieurs millions de francs au cours d'une partie. Cette perte exceptionnelle et imprévue affaiblit considérablement les finances déjà mauvaises. Face à la situation, Frattoni propose son aide à René Leroux pour lui éviter la banqueroute. Elle accepte, mais elle se rend compte, quelques mois plus tard, qu'un scénario similaire se déroule au casino de Menton, même schéma. Au cours d'une partie, l'établissement perd lui aussi plusieurs millions de francs et doit déposer le bilan. Et qui est là pour le reprendre? Frattoni, tiens donc. Pour René Leroux, c'est clair, ses parties étaient truquées et Frattoni est derrière tout ça. Dans ses interviews, elle n'hésite pas à l'accuser à la fois d'achat de vote pour mettre la main sur le palais de la Méditerranée et d'avoir joué un rôle dans la disparition de sa fille. Selon elle, tout est lié. Face à ces allégations, Frattoni décide de répliquer.
Madame Leroux vous accuse surtout d'avoir payé 3 millions à sa fille Agnès le vote qui a fait basculer la majorité en faveur de votre groupe au palais de la Méditerranée.
Madame Leroux m'accuse de cela comme de beaucoup d'autres choses, mais là encore je dois dire que c'est absolument faux. Il s'agit d'un véritable roman qu'elle a monté. Elle m'en veut, je ne sais pas pourquoi, car je ne lui ai jamais rien fait. Quant à sa fille Agnès Leroux, je ne la connaissais pas du tout. Au mois de mars 1977, elle a demandé à me rencontrer pour me vendre ses intérêts. Chose que j'ai acceptée et je ne pense pas avoir fait mal.
Mais comme par hasard, Agnès Leroux a disparu après avoir planqué l'argent que vous lui aviez versé en Suisse avec Maurice Agnelet. Et Mme Leroux laisse entendre que vous n'êtes pas étranger à cette disparition.
Là encore, c'est la poursuite du roman de Madame Leroux. Je me pose moi-même la question, mais pourquoi elle a disparu? J'ai versé de l'argent, cet argent a été transféré par les soins d'Agnès Leroux ou je ne sais pas de qui en Suisse. Il reste bloqué en Suisse, je n'ai ni les actions ni mon argent.
Et Jean-Maurice Agnelet dans tout ça? Les enquêteurs découvrent l'existence d'un compte commun aux deux amants en Suisse sur lequel on retrouve la trace d'une somme équivalente justement à 3 millions de francs, montant de l'achat des parts d'Agnès par Frattoni. Pour René Leroux, c'est clair, sa fille était passionnément amoureuse de Jean-Maurice Agnelet. Ce dernier s'est servi de cette situation pour l'influencer dans le deal avec Frattoni. Une fois la transaction effectuée, les deux hommes se seraient débarrassés d'elle. Maintenant, qui est ce Jean-Maurice Agnelet? Né à Monaco le 10 février 1938, c'est un avocat de 39 ans au moment de la disparition d'Agnès Leroux. Sur l'homme, les avis divergent. Certains le trouvent prétentieux, antipathique, trouble. D'autres soulignent au contraire son charme et son côté séducteur. Il aime les femmes et ne s'en cache pas d'ailleurs. On lui connaît une autre relation, avec une certaine Françoise Losseur, héritière, elle aussi, en l'occurrence, de laboratoire pharmaceutique monégasque. Jean-Maurice Agnelet est aussi un homme d'entre-gens, président de la section locale de la Ligue des droits de l'homme. Il appartient également à une loge maçonnique depuis ses 21 ans, au sein de laquelle il a gravi les échelons. Après une première convocation en juin 1978, Jean-Maurice Agnelet est de nouveau entendu par les enquêteurs en septembre. Son attitude est assez agressive. Il refuse de répondre. Il se braque. Les policiers obtiennent sa garde à vue. Elle dure 48 heures, pendant lesquelles il oppose d'emblée le secret professionnel. Il refuse d'admettre qu'il était l'amant d'Agnès Leroux ou l'existence d'un compte en Suisse. Puis son cabinet est perquisitionné. Agnelet remet d'emblée aux policiers un ensemble de documents en rapport avec Agnès Leroux. 14 dossiers, 5 cassettes audio. Le juge et les enquêteurs découvrent la curieuse habitude d'Agnelet. Enregistrer sur un magnétophone des conversations téléphoniques ou dans son cabinet et dont il fait des montages qu'il conserve comme archives. Et ce n'est pas tout. Le juge Richard Boisy s'arrête net en parcourant les documents. Car il tombe sur une photocopie du mot découvert chez Agnès Leroux, celui où elle dit « Désolé, mon chemin est fini ». Comment cette photocopie a-t-elle pu se retrouver là ? Le juge se tourne vers Agnolet. Qu'avez-vous fait d'Agnès Leroux ? Agnolet reste silencieux. Le bâtonnier intervient. Il s'agit d'une perquisition, pas d'un interrogatoire. Alors le juge laisse repartir Agnolet et le convoque pour 18 heures. La possession de ce document pourrait engager une inculpation pour complicité. Pourtant, lorsqu'il le reçoit, le juge Moisis l'interroge uniquement sur l'aspect financier de l'affaire, celle de l'achat du vote d'Agnès Leroux. Là, Agnolet reconnaît son rôle et admet qu'Agnès a été rémunérée pour voter contre sa mère. Agnolet ressort libre de l'audition. Quelque temps après, il donne une interview.
Je suis obligé de rester dans la plus grande réserve. Toutefois, je peux vous dire que toutes les personnes qui doivent connaître de cette enquête connaissent exactement mon rôle. Il est clairement établi. Je n'ai, moi, en conscience, rien à me reprocher. Et la justice ne me reproche rien. Je me réserve de pouvoir, plus tard, m'expliquer.
Une seule question, maître. Est-ce que vous pensez qu'Agnès Leroux est encore en vie ?
Je ne le sais pas. Je l'espère.
À l'automne 79, un an après le début de l'enquête, les policiers découvrent d'autres éléments troublants concernant Jean-Maurice Agnolet. Sur 4 exemplaires de la Pléiade lui appartenant, déposés dans la bibliothèque de son ex-femme, il retrouve d'étranges annotations. Une en particulier les interpelle. Il est écrit « Mercredi 2 novembre 1977, reclassement dossier PM-PV-Liberté ». PM-PV. Ce sont les initiales qu'Agnolet emploie sur ses dossiers concernant le Palais de la Méditerranée pour PM et le Palais Vélicien, société propriétaire des murs du Palais pour PV. 2 novembre 1977-Liberté. Le 2 novembre est justement une date envisagée pour le jour de la disparition d'Agnès. Troublant. Et puis les enquêteurs découvrent aussi qu'Agnolet a viré l'argent du compte commun sur un autre compte en Suisse, à lui seul cette fois, quelques mois seulement après la disparition d'Agnès Leroux. Alors, pourquoi ? Est-il si sûr qu'elle ne reviendra pas pour retirer cet argent ? Pour les policiers, voilà le mobile. Oui, sauf que Jean-Maurice Agnolet a un alibi. Il lui est fourni par Françoise Losseur, son autre maîtresse. Elle assure qu'ils ont passé le week-end de la Toussaint 1977 ensemble, en Suisse, le week-end justement pendant lequel Agnès a disparu. Agnolet est donc remis en liberté. En revanche, en décembre 1978, il est radié du barreau. Car dans le volet financier de l'affaire, il s'est rendu coupable de graves manquements aux règles de sa profession. D'ailleurs, plane toujours sur lui, comme sur Fratoni, la menace d'un procès dans ce volet de l'affaire Leroux. Du côté de l'enquête, inexorablement, le temps passe et ça n'avance pas. Les mois filent et on est toujours sans nouvelles de la jeune femme. René Leroux ne supporte pas de voir l'enquête s'enliser. À plusieurs reprises, elle fait requalifier la plainte pour maintenir police et justice sous pression. Finalement, en août 83, soit 6 ans après la disparition d'Agnès, un avis de recherche international est émis contre Agnolet. Il est alors inculpé d'homicide et d'abus de confiance. Résident depuis 2 ans au Canada, c'est là qu'il réagit à ce rebondissement.
La justice française a toujours su où m'atteindre. Le juge a toujours eu mon adresse et mon téléphone à Montréal. J'ai été immatriculé au consulat de France à Montréal dès mon arrivée en avril 1980. Je n'ai encore reçu aucune notification officielle concernant une décision de la justice française à mon sujet. Je n'ai eu que des informations téléphoniques par des amis français. Dès samedi matin, à 7h du matin. Et dès midi, j'avais en poche mon billet d'avion pour rentrer en France et j'en ai immédiatement informé mon avocat à Nice. C'est-à-dire que je serai devant le juge en France avant, et je souligne bien, avant que rien d'officiel ne m'ait atteint. N'aurait-il pas été plus humain de me convoquer simplement ?
Agnolet est interpellé le 8 août 1983 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et il est placé en détention. Au bout de 2 mois, le 7 octobre 1983, la justice abandonne les charges pour le volet criminel. Elle estime en effet que le dossier n'est pas assez étayé. L'étrangeté d'une attitude n'a jamais valu culpabilité. Les soupçons ne constituent pas des preuves et le doute ne fait pas le verdict. Et puis il n'y a pas de cadavre. et surtout, Agnolet a un alibi. Il bénéficie donc d'un non-lieu le 30 septembre 1985. Cependant, pour le volet financier, la cour d'appel de Lyon le condamne à 30 mois d'emprisonnement, dont 24 fermes pour abus de confiance et complicité d'achat de vote. Fratoni, lui aussi, est condamné, mais il s'est exilé depuis plusieurs années en Amérique du Sud. Condamné sur le plan financier, innocenté sur le plan criminel. On en est là, 6 ans après la disparition d'Agnès Leroux. 6 ans, rappelons-le, sans nouvelles. Le temps. Voilà sans doute le cœur de cette histoire. Car bien des années après cette première décision judiciaire, l'affaire Leroux va connaître un rebondissement spectaculaire.
En octobre 77, en pleine guerre des casinos, Agnès Leroux, l'héritière d'un grand casino de Nice, part pour le week-end de la Toussaint au volant de son véhicule. On ne la reverra plus jamais. Un ancien avocat niçois, Jean-Maurice Agnolet, suspecté d'être le responsable de cette disparition et qui avait bénéficié d'un non-lieu en 85 et qui vivait jusqu'à présent en exil à Panama, est consigné en France, on l'a appris hier. Au début du mois dernier, la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence a ordonné la réouverture de la procédure criminelle, réouverture motivée par le revirement d'un témoin clé, l'ancienne maîtresse de Jean-Maurice Agnolet, celle qui lui avait fourni son alibi voici 23 ans. L'ancien avocat est de nouveau mis en examen pour homicide volontaire et séquestration.
"23 ans après la disparition d'Agnès Leroux en janvier 2001, l'affaire ressurgit au cœur de l'actualité. Entre-temps, certains protagonistes sont décédés, comme Jean-Dominique Fratoni. D'autres sont partis s'exiler en Uruguay, comme Jacques Médecin. Pour bien comprendre ce rebondissement, il faut revenir un peu plus d'un an en arrière. En juin 1999, Françoise Losseur, la maîtresse de Jean-Maurice Agnolet, celle qui a confirmé son alibi, se rend dans le bureau de la juge d'instruction à Nice et revient sur ses premières déclarations. Oui, elle est bien allée à Genève le week-end de la Toussaint 1977, mais non, Jean-Maurice Agnolet n'était pas avec elle. Cet élément nouveau ne tombe pas du ciel. Il se trouve que depuis 23 ans, sans relâche, une femme se bat pour connaître la vérité. Et cette femme, c'est Renée Leroux, la mère d'Agnès. Pendant 23 ans, elle a sollicité des détectives privés, mené sa propre enquête, constitué des dossiers, des centaines de fiches et usé près de 6 juges d'instruction. Surtout, elle s'est démenée pour que son combat puisse continuer, malgré le temps qui passe, plus vite que n'avance l'enquête, avec la prescription qui guette. Alors, il n'y avait qu'un moyen, déposer plainte pour recel de cadavre. Eh oui, le recel ne peut être prescrit. Conseillée par son détective, Renée Leroux décide de s'attaquer à un personnage clé de l'affaire, Françoise Losseur, l'ex-maîtresse, celle qui valide l'alibi d'Agnolet. Renée Leroux porte plainte contre elle pour complicité de recel de cadavre. Si elle était en week-end avec Agnolet au moment de la disparition d'Agnès, c'est qu'elle aurait pu jouer un rôle. Alors Françoise Losseur prend peur et décide de révéler son mensonge. Pourquoi, lui demande la juge. Parce qu'elle ne veut plus se mettre en danger pour un homme avec qui elle n'a plus aucun contact, lui répond-elle. Depuis quelques années, Françoise Losseur et Jean-Marie Agnolet en effet se sont séparés. D'un coup, c'est toute la défense d'Agnolet qui s'écroule. Et de nouveau, la justice se met au travail. Le dossier est rouvert et la procédure enclenchée. Le 26 octobre 2005, Agnolet est renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. L'affaire ne se compte plus en années, mais en décennies. C'est donc un homme à la voix vieillie qui se présente au tribunal de Nice le 23 novembre 2006.
J'ai dit que depuis 30 ans, on me poursuit. Et que depuis 30 ans, je dis que je suis innocent. Depuis 30 ans, je dis que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qu'est devenue Agnès Leroux. Et on me demande qu'est-ce que je pense d'Agnès. Mais quand je pense à Agnès...
Et le procès s'ouvre pour 4 semaines à Nice. Dès 6 heures du matin, le public attend devant le tribunal pour essayer d'avoir une place, tant la foule qui s'y rend est impressionnante. Inévitablement, le témoignage de Françoise Losseur est l'un des moments cruciaux du procès. Christian Binner pour France Inter raconte.
Oui, Françoise Losseur, 66 ans, toujours belle et aux manières quelque peu précieuses. Elle raconte, lorsque j'ai été convoquée par la police en octobre 1978, soit un an après la disparition d'Agnès Leroux, j'ai voulu voir avant Maurice Agnolet. Alors ça s'est passé sur une aire d'autoroute, il m'a dit, si on te pose la question, tu n'as qu'à dire que ce 27 octobre, j'étais avec toi en week-end à Genève. J'ai demandé pourquoi. Il m'a répondu, je n'ai rien fait à Agnès, mais je ne peux pas le prouver et ça m'arrange que tu dises ça. Et monsieur le Président, je l'ai cru, oui. Et je défie quiconque qui aime un homme d'aller contre ça, de ne pas faire quelque chose qui lui rendrait service. Le Président, pourquoi alors être revenu sur ce témoignage, 20 ans après, par dépit amoureux cette fois ou par haine? Oh, pas du tout, monsieur le Président. Je n'ai plus aucun sentiment pour lui et d'une certaine façon, je pense même qu'il a déjà payé depuis le temps que cette histoire lui pourrit la vie. Pas par haine, mais par trouille. Oui, parce qu'un jour, je me suis retrouvé témoin assisté chez un juge, plus ou moins accusé de complicité de recel de cadavre. C'était énorme, je vous assure que ça fait un choc, alors j'ai dit la vérité. Interrogé à son tour, Agnolet répond sèchement, je n'ai jamais demandé à Françoise de me fournir un alibi, jamais.
Vient le temps des avocats. Maître Kijman, qui défend les intérêts de Renée Leroux, entre en scène. Le ténor du barreau commence par évoquer le fiasco judiciaire de cette affaire. Il met en évidence le retard de l'enquête, le statut de notable et les relations d'Agnolet qui ont pu le protéger. Et puis, que dire de son attitude? Il est le seul à ne pas s'inquiéter de la disparition de son ancienne maîtresse. Et puis, cette photocopie du testament d'Agnès retrouvée dans son cabinet, ses annotations dans la Pléiade, cette rapidité, 3 mois seulement, pour retirer l'argent du compte suisse d'Agnès. Et puis le mobile, celui de l'argent, de la liberté retrouvée sans Agnès. Toutes ces choses qui laisseraient entendre qu'Agnolet ne doutait pas de la disparition de la jeune femme, pour la simple et bonne raison qu'il la savait morte. Puis c'est au tour de la défense. Maître Jean-Pierre Versini-Campinki et François Saint-Pierre dénoncent le vide sidéral du dossier. Pas de cadavre, pas d'armes, pas d'aveux, pas de témoins, rien. Agnolet a menti pendant l'enquête, c'était pour éviter la radiation du barreau. Et puis, le mot retrouvé, les annotations, toutes ces pièces insuffisantes lors du premier procès en 1985 pour le condamner, alors imaginez-vous, 30 ans après. Le témoignage de Françoise Losseur, là, il y a un doute. Car c'est parole contre parole. L'un des deux ment, c'est clair. Reste à savoir lequel. Ce qu'on sait en revanche, c'est que Françoise Losseur et Maurice Agnolet sont en très mauvais termes depuis 20 ans et leur séparation. Alors, pourquoi pas une vengeance de l'ex-maîtresse ? Après un mois de débat, le 20 décembre 2006, le verdict tombe. Jean-Maurice Agnelet est acquitté.
Je suis venu en étant persuadé que l'évidence de mon innocence serait reconnue et les jurés ont eu leur intime conviction que je suis innocent.
Mais au cours du procès, est-ce qu'il y a eu des moments quand même où vous avez douté d'obtenir cet acquittement ?
Non, au niveau du procès, je suis tellement attentif à écouter ce que disent les uns et les autres que je n'ai pas assez de recul pour voir l'orientation de l'ensemble. Je suis resté zen, je suis resté calme, je suis persuadé que mon innocence sera reconnue, elle l'a été.
Vous avez entendu quand même des choses assez terribles sur vous.
C'est un psychiatre qui a dit que j'avais un ego, un narcissisme. Mais comme je m'en fous de ce qui a été dit, parce que c'est pas vrai, mon ego, mon narcissisme, ça fait bien longtemps que je me suis assis dessus. Que voulez-vous faire contre la calomnie ? Rien.
À l'annonce des verdicts, René Leroux, la mère d'Agnès, s'est abattue. Pour autant, elle annonce qu'elle continuera, comme elle l'a toujours fait, à poursuivre sa quête de vérité. Elle fait donc appel, et le 17 septembre 2007 s'ouvre le deuxième procès à Aix-en-Provence. De nouveau, les deux camps s'affrontent, avancent leurs arguments, en même temps qu'ils démontrent ceux d'en face. Agnelet maintient sa position, il est innocent comme il n'a eu de cesse depuis 30 ans de le dire. Après un mois de débat et 2 heures de délibération, les 12 jurés et les 3 magistrats se prononcent. Et là, contre toute attente, Jean-Maurice Agnelet est finalement condamné, et lourdement, 20 ans, inédit, 30 ans après les faits, l'ancien avocat et amant est condamné. À la sortie du tribunal, René Leroux prend la parole, exprimant la fin de 30 années de lutte.
Je suis contente du résultat, mais... Hélas, je sais que malheureusement, je ne reverrai jamais ma fille. Et c'est ça le plus dur. À mon âge, je vais avoir 86 ans à la fin de l'année. Ça fait 30 ans. C'est dur. Mais enfin bon, aujourd'hui, le résultat est là.
Ce que l'on retient de cette histoire à l'issue de ce procès en appel en 2007, c'est qu'après 30 ans, le dossier s'est alourdi au fil du temps face au revirement de certains témoins. Les preuves ont pris de l'épaisseur. Cependant, Jean-Maurice Agnelet a été condamné pour un meurtre sans cadavre. Au prix de multiples rebondissements, l'affaire Leroux couvre, au final, 3 décennies d'histoire judiciaire. Voilà. Eh bien, ce n'est pas la fin, figurez-vous. Car en 2014, un énième événement survient, et celui-là, c'est notre invité qui va nous le raconter dans quelques minutes.
Ever love you the way I I'll be here to comfort you and see you through. I'll be home, I'll be home, I'll be home.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Agnès Leroux, notre invité Pascal Roverdiard. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes chroniqueuse judiciaire pour le journal Le Monde et auteur du livre que j'ai entre les mains, intitulé La Déposition aux éditions L'Iconoclaste. Alors, la suite de cette affaire, finalement, c'est là où votre livre commence. Alors, on l'a vu lors du procès en appel en 2007, Maurice Agnelet est condamné, alors qu'il avait été acquitté en première instance. Le 10 janvier 2013, un autre élément arrive, qu'on n'avait pas inclus dans le récit, que je donne maintenant. La Cour européenne des droits de l'homme condamne la France pour ce procès en appel. Alors, elle ne juge pas sur le fond de l'affaire, mais elle souligne de nombreuses incertitudes, et notamment une incertitude majeure. L'acte d'accusation de meurtre n'est pas formellement établi, et pour cause, on le rappelle, il n'y a pas de cadavre. En tout cas, pas de cadavre retrouvé. Donc, en 2014, il y a un nouveau procès. Troisième procès. Et là, il y aura un coup de théâtre que vous allez nous donner dans une petite minute. Mais d'abord, quelle était l'atmosphère du procès, de ce troisième procès?
Il faut imaginer, on arrive à Rennes, donc moi j'ai suivi les deux premiers procès, celui de Nice, celui d'Aix-en-Provence.
Et là, on est à Rennes, c'est ça?
On est à Rennes en 2014, beaucoup, beaucoup de temps passé. Moi, personnellement, j'y crois plus. Je pense qu'à un moment donné où je me dis, bon ben voilà, c'est trop tard, quoi. Il faut que la justice arrête. Maurice Agnelet a 76 ans. Quand on le voit monter les marches, il s'appuie sur l'épaule de son fils. Il a l'air d'un vieillard. Il est méconnaissable. Il était encore très très élégant à Nice et à Aix. Et là, on voit un espèce de vieillard au teint cireux, avec une barbe blanche, en survêtement noir et vraiment un vieux monsieur qui s'affale ensuite dans le box, qui comparaît libre puisqu'il a été remis en liberté. Et on se dit, bon, voilà, moi je viens parce qu'on n'est plus qu'une poignée à suivre cette affaire qu'on a suivie depuis le départ dans les procès, parce qu'il faut aller jusqu'au bout, il faut la boucler, mais très franchement, je pense qu'on n'y croit plus trop. Puis surtout, on se dit, c'est trop tard, voilà, elle passionnera plus personne.
Bon, et bien c'est là qu'arrive le coup de théâtre. Alors, quel est donc ce coup? Oui, je parle de coup théâtre, pas pour rendre les choses absolument sensationnelles, mais dans un procès, une chronique judiciaire, quand il se passe quelque chose, c'est un coup théâtre, un élément de scénario important. Alors, qu'arrive-t-il?
Ce qui se passe, c'est que ce procès donc dure 4 semaines comme les précédents, et les 3 premières semaines se sont passées. Maurice Agnelet, au départ était arrivé comme ça, comme un personnage très fatigué, très vieux, qui était un petit peu la stratégie de la défense, en fait, modifie complètement et fait réapparaître sa personnalité complètement impressionnante, angoissante. Je veux dire, c'est vraiment un personnage assez terrifiant, quoi. Et donc tous les éléments,
Pourquoi il est terrifiant?
Parce que il est toujours décalé, il ne répond pas comme il faut, il est glaçant, il est ironique, c'est un cauchemar pour son avocat, Maurice Agnelet. Et surtout, son avocat lui avait conseillé cette stratégie-là, c'est-à-dire qu'il devait être, c'était un vieux monsieur et qui montrait effectivement l'acharnement de la justice sur ce vieux monsieur. Et en fait, au deuxième jour, il est sorti comme un diable de sa boîte, quoi. Et donc, on voit les jurés qui étaient pour certains, dont je me disais que certains d'entre eux étaient à peine nés quand l'affaire a commencé, qui commencent à se passionner pour cette affaire, parce qu'il était loin pourtant. Et puis surtout, il y a énormément d'éléments de charge quand même dans ce dossier. Là, vous en avez évoqué plusieurs. Il y a évidemment le mot, il y a l'argent. Enfin bon, il y a beaucoup, beaucoup de charges. Oui. Il n'y a pas de cadavre, mais il y a beaucoup de charges. Et donc, les choses avançaient et on allait... Enfin, le dossier était assez accablant pour Maurice Agnelet. Mais bon, on arrivait à la dernière semaine. Les débats devenaient un petit peu ennuyeux. On avait vu les principaux témoins. Et ce lundi matin-là, je ne me presse pas trop pour arriver...
La routine, quoi.
La routine. Le verdict est prévu pour la fin de la semaine. Et tout d'un coup, l'audience s'ouvre et le président de la cour d'assises d'abord appelle l'un des fils de Maurice Agnolet, Thomas, son fils cadet, et lui demande de sortir de la salle, lui demande de laisser son téléphone portable. Enfin, donc on se dit qu'est-ce qui se passe. Et une fois que Thomas est sorti, il nous dit voilà, j'ai reçu hier une déposition de Guillaume Agnolet, le fils aîné de Maurice Agnolet, qui souhaite être entendu par la cour d'assises. Il a des choses à nous dire. Et il lit la déposition que Guillaume Agnolet est allé faire la veille chez un procureur de la République à Chambéry. Et dans cette déposition, Guillaume Agnolet dit « Voilà, j'ai un cas de conscience à vous déposer. Je suis convaincu que mon père est bien le meurtrier d'Agnès Leroux. » Et il livre trois souvenirs, trois phrases de son père, terribles, qu'il date. Et il dit « Voilà, je suis prêt à être entendu dans la cour d'assises. » Et tout d'un coup, ce fils qu'on avait vu soutenir son père...
Oui, et on l'entendra d'ailleurs.
Deux premiers procès.
Oui, c'est bon.
Accuse son père, et on sent que, voilà, tout bascule, tout chavire.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Et ce fils dit, j'ai trois souvenirs. La première fois, j'avais 14 ans, mon père était en train de regarder son dossier comme il a passé sa vie à regarder son dossier, à regarder toutes les pièces. Et il a levé les yeux vers moi, et il m'a dit, tant qu'il ne retrouve pas le corps... Je suis tranquille. Et il a ajouté, et moi le corps, je sais où il est.
Ouais.
Ça c'est le premier souvenir qu'évoque Guillaume Agnolet. Le deuxième souvenir c'est un peu plus tard, il a un frère aîné qui vient de mourir, sa mère est dans une détresse folle. Et les parents sont séparés, elle convoque Guillaume dans sa chambre. Guillaume a toujours choisi son père dans la séparation du couple. Et elle lui dit, il faut que tu saches qui est vraiment ton père. Et elle lui annonce, c'est lui qui a tué Agnès Leroux. Je tiens cette confidence de Maurice lui-même. Ça s'est passé effectivement à la Toussaint 77. Ils sont partis ensemble en Italie, sont allés à Monte Cassino. Et là, ils ont pris une petite route de campagne. Il l'a tué d'une balle dans la tête. Ensuite, il est rentré avec sa voiture. Il a laissé sa voiture dans une gare à la frontière en Italie. Et il est rentré à Nice. Et le troisième souvenir qu'évoque Guillaume, c'est un peu plus tard, c'est au moment où Françoise Losseur est convoquée après avoir... Enfin, où Maurice Agnolet, pardon, est convoqué parce que Françoise Losseur lui a retiré son alibi. Les fils vont chercher leur père à l'aéroport de Genève. Et le père, immédiatement, redit ça, reparle de cette affaire et dit « Tant qu'il ne retrouve pas le corps, je suis tranquille. Et moi, le corps, je sais où il est. » Et il dit ça devant ses deux fils.
Alors, on essaiera de comprendre le revirement de Guillaume, parce qu'effectivement, vous le disiez, en 2007, il avait parfaitement soutenu son père. On va écouter d'ailleurs sa réaction après la condamnation de Maurice Agnolet à 20 ans de prison. Hein, c'était pendant le procès en appel. Écoutez Guillaume.
Les derniers pas de liberté de Jean-Maurice Agnolet ce matin, toujours aussi déroutant par sa désinvolture. « Je suis étranger à cette affaire », furent ses derniers mots jurés. Après sa condamnation à 20 ans, il apparaît dans le box, souriant, décontracté. Guillaume, l'un de ses fils, se dit abasourdi par ce verdict.
On n'y croit pas. On est persuadé de l'innocence. C'est même certain. Quoi. On sait que c'est un vote. C'est pas quelque chose qui définit la réalité. C'est un vote. Les gens ont voté. Mais on n'y croit pas.
Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ce revirement ? Je me permets de vous poser la question, parce que en quatrième de couverture de votre livre, il est écrit « C'était l'histoire d'un secret de famille, personne n'avait rien su, rien deviné. J'avais la scène sans les coulisses, la lumière sans les ombres. J'ai voulu comprendre, alors j'ai écrit de longues lettres à Guillaume Agnolet, et tout a commencé. » Voilà, donc vous connaissez bien Guillaume Agnolet.
Oui, c'est-à-dire que bon, je suis chroniqueur judiciaire depuis longtemps. J'ai vécu des moments extrêmement forts, extrêmement passionnés, extrêmement violents. Je pense que je n'en avais jamais vécu d'aussi terrifiant que celui-ci. Il faut imaginer ce que c'est qu'une cour d'assises. Il faut imaginer l'espace extrêmement étroit d'un prétoire quand Guillaume arrive, quand il va affronter son père qui est dans le box, quand il va affronter son frère qui va lui être les deux frères ne sont pas d'accord, donc le frère va lui être confronté, quand il va affronter par un écran interposé sa mère, quand nous sommes tous là derrière dans le public, quand il va devoir répondre aux questions du président, et quand cet homme qui a 45 ans seul va venir déposer un secret de famille qu'il garde depuis 30 ans. Et je pense qu'il n'y a rien de plus violent qu'un secret de famille, mais l'explosion d'un secret de famille en public, avec en plus, je dirais évidemment, au bout du compte, la condamnation de son père, c'est quelque chose de terrible, d'absolument terrible. Et je pense que tous ceux qui ont vécu ces moments-là ne l'oublieront jamais. N'oublieront jamais la violence de ces instants-là. Je pense qu'on est allé vraiment à la limite supérieure de ce qu'on peut faire à un homme et ce qu'on peut supporter, je veux dire, psychologiquement, comme... Parce qu'il n'est pas coupable, je veux dire, il n'est pas accusé. C'est un témoin. Ouais. Donc la violence sur un témoin, c'est quelque chose de très, très particulier.
Qu'est-ce qu'il a voulu soulager sa conscience, tout simplement?
Et en fait, évidemment, quand il arrive, tout le monde doute de lui, parce que, je veux dire, d'abord ceux qui ont suivi le procès l'ont vu soutenir son père. Mmh. Il va faire une déposition extraordinairement forte, parce que, en fait, il ne va jamais vouloir convaincre. Paradoxalement. Vous savez, quand on veut convaincre, finalement, on essaye toujours de... On veut tellement faire bien qu'on va limer des aspects, on va tordre parfois un petit peu ses souvenirs. Et il va être toujours absolument extrêmement calme. Il va dire, écoutez, voilà, oui, j'ai soutenu mon père, bien sûr. Il va expliquer pourquoi il a soutenu son père. Il va dire, parce que c'est mon père.
Oui, c'est...
Et il va expliquer comment il a vécu toutes ces années-là. Il va expliquer que ça fait que depuis qu'il est gosse, il a vécu avec cette affaire. Quand son frère va lui être confronté et que son frère va le démentir et qu'on va lui demander de réagir, il va dire, ce Thomas va dire, moi, ces trucs-là, je ne m'en souviens pas. Ces phrases-là, je ne m'en souviens pas. Quelle va être la réaction de Guillaume Manuelet? Il va dire, il ne s'en souvient pas comme je l'envie.
Bien sûr.
À chaque fois, si vous voulez... Il ne va pas essayer, il y aura aucune haine, il y aura aucune violence. Il va simplement, on a ce sentiment, c'est au sens propre la déposition, mais ce qui va être le plus frappant, c'est que cet homme-là vient poser effectivement un fardeau. Et il laisse ça, et il ne dit pas, c'est moi qui ai raison. Il dit, voilà, ça fait 35 ans que je vis avec ça, je vous le confie,
absolument.
Je vous le donne.
Et là, le public, les avocats, la cour, les jurés, vous voyez... Dans leur regard, ils sont captivés, effectivement, ils le croient.
On est tous complètement captivés, mais finalement, c'est là aussi la force de la cour d'assises, c'est la force du contradictoire. Ce n'est pas simplement un homme qu'on croit. On ne croit pas simplement les mots qu'il prononce. On voit la manière dont les avocats, et notamment l'avocat de son père, se comportent avec lui.
Ouais.
Celui qui est le plus sidéré par la déposition complètement surprise de Guillaume Magnolet, c'est l'avocat de Maurice Agnolet, c'est François Saint-Pierre, qui connaît très très bien Guillaume, qui travaille depuis des années avec ce fils aux côtés de son père, qui n'avait pas fait venir Guillaume Magnolet à ce procès, à tous les autres procès. D'ailleurs, le président avait dit, mais pourquoi est-ce que Guillaume n'est pas venu cette fois? Et Thomas avait répondu, bon, mon frère s'est éloigné de la famille... Et on s'était pas posé davantage de questions. Et en fait, on voit très bien que François Saint-Pierre va être tellement impressionné par la puissance du témoignage de Guillaume Magnolet qu'à aucun moment il va, je veux dire, l'agresser, lui rentrer dedans, etc. Donc en
il
fait,
va rentrer dans rien de contradictoire.
Non. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que voyant la tragédie familiale qui est en train de se faire, l'avocat de Maurice Agnolet va se tourner vers son client et va lui dire, il serait peut-être temps de dire quelque chose, Maurice, de dire votre vérité. C'est un appel à l'aveu.
Et là, comment se comporte Maurice Agnolet?
C'est un interrogateur absolument incroyable. Il est dans un face-à-face avec son avocat et il y a un moment de tension d'une dramaturgie inouïe et on s'attend à quelque chose et Maurice Agnolet se retourne vers son avocat avec cette voix flûtée, comme ça, pointue. Il va dire, mais quelle est la question?
Alors, vous parliez de tragédie familiale, presque une tragédie grecque, parce qu'en plus ça se passe dans un prétoire, et donc c'est un lieu public, hein, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est un lieu public. Et on va écouter la déchirure familiale exprimée simplement par Thomas, maintenant, l'autre frère. Écoutez.
Moi, je pense que mes parents n'ont pas eu cette conversation avec Guillaume. Peut-être qu'il a l'impression de dire la vérité, mais c'est qu'une impression. Et je sais qu'il est très fragile psychologiquement, qu'il a pas mal de symptômes de maladie mentale obligatoirement et que s'il a peut-être l'impression de dire la vérité, mais c'est pas la vérité, c'est sa vérité d'un cerveau malade. On a eu la même enfance et on a eu le même vécu avec cette histoire, hein, Mais il faut se rendre à l'évidence que on n'a pas la même capacité, résilience. Lui et moi, il a sa force intellectuelle qui est peut-être un peu plus faible que la mienne. Moi, j'ai pas encore craqué, alors que dans cette histoire, familialement, tout le monde a craqué.
Vous soutenez toujours votre père ?
Et je le soutiendrai tout le temps. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui amène une preuve et pas un témoignage, 37 ans après, où c'est quand même l'évidence que c'est un lavage de linge sale en famille qui se passe à la barre. Guillaume, qui cherche à soulager sa conscience, il entraîne avec lui toute une famille dans un gouffre que lui seul a choisi de creuser.
Au départ, il charge pas son frère, mais très vite il le charge, hein, cerveau malade.
Ouais.
Et puis il nous emmène dans l'abîme, quoi.
Ouais, toute la famille. Ce qui est fascinant d'ailleurs, c'est qu'il parle, il parle de résilience.
Ouais.
Oui, c'est bon. Là, c'est en plus c'est à l'extérieur. Ce qui était la confrontation des deux frères était effectivement terrible et vraiment bouleversante. Je pense que. En fait, ce qui s'est passé après, ce qu'on a tous compris, c'est que, et c'est aussi ce que j'ai compris en allant voir Guillaume Magnolet après, pour essayer de comprendre pourquoi il avait fait cette déposition, c'est que la famille, en tout cas, évidemment, Maurice Agnolet le premier, la mère des trois des enfants et Thomas, savait que Guillaume voulait parler. Ça fait en fait, et c'est là l'histoire du livre, c'est l'histoire de la déposition, c'est qu'en fait ce garçon se tapait la tête contre les portes symboliquement depuis des années parce qu'il n'en pouvait plus, il étouffait dans ce secret. Et il explique ça très très bien d'ailleurs, il dit qu'en fait s'il avait eu la certitude que entre eux ils pouvaient parler de l'affaire, c'est-à-dire quand il dit finalement c'est une guerre, bon si entre nous on peut en parler comme des anciens combattants, ok c'est bon, mais il va s'apercevoir que plus personne ne veut se souvenir de ce qu'il évoque, plus sa mère ne veut plus dire qu'elle lui a raconté ça, son frère fait mine de ne pas se souvenir. Et Guillaume se retrouve tout seul avec son secret. Et à un moment donné, il prévient sa famille, il dit « je vais parler ». Et ils vivent tous dans la terreur qu'il va parler. Donc en fait, pour nous tous, c'est une surprise, mais pour eux, c'est pas du tout une surprise. Eux savent qu'il n'en peut plus et qu'il va venir déposer. Enfin, ils ne savent pas qu'il va venir déposer, ils savent qu'il menace en permanence de venir déposer parce qu'ils sentent qu'il est à bout. Ce que j'ai trouvé extraordinaire, moi, dans cette déposition, c'est que ce garçon aurait pu aller venir chez vous, aurait pu aller sur un plateau de télévision. Et il est venu là, il est venu dans un prétoire, oui. Il est venu affronter son père en direct, il est venu affronter sa mère en direct, il a pris tous les risques.
C'est une vraie dimension, hein, c'est pas... Ouais. Ça se termine comment le procès, d'ailleurs ?
Ça se termine par la condamnation de Maurice Agnolet à 20 ans de réclusion criminelle.
Et aujourd'hui, que fait-il ?
Aujourd'hui, il a donc 78 ans, et il est presque à mi-peine, donc sa sortie de prison est, disons, imminente. Hein.
Merci, en tout cas, merci Pascal Robert Diard pour cette histoire, effectivement, absolument passionnante. Merci, au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Agnès Leroux, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.